ce que nous voulons faire dès à présent, c'est plonger nos regards dans la parole de Dieu. Regardez ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur durant cette semaine pour que nous puissions sortir de cet endroit tout à l'heure en ayant appris certaines choses, en ayant vécu quelque chose de fort. Et on a placé ces moments devant le Seigneur et on veut être réceptif à la parole de Dieu. Si je posais la question individuellement à chacun d'entre vous, que représente, avec cette question, donc, que représente Noël pour toi? On aurait peut-être chacun des réponses différentes, les unes par rapport aux autres. Les enfants l'ont chanté, tout à l'heure également pendant la louange, c'était orienté dans cette direction également. C'est qu'un jour, un sauveur nous a été donné. Il nous a été donné pour chacun d'entre nous, pour nous tous qui formons cette église, vous tous qui êtes là ce matin. Et quand on parle de Noël, pourquoi les paroles, simplement les paroles prophétiques de Noël? Parce que à un moment donné, avant que le Seigneur Jésus vienne sur cette terre, Dieu avait déjà prophétisé bien des siècles auparavant, donc la venue du Seigneur. Un moment extraordinaire, un moment tellement crucial pour l'humanité tout entière. Et c'est une réalité. Alors, dans ces paroles prophétiques, on va les voir, quelques-unes de ces paroles prophétiques, et vous allez voir que tout ça coïncide, et le Seigneur est venu également avec un message. Et la première parole, c'est une parole de salut. Et nous devons jamais oublier que Jésus est venu nous apporter le salut. Alléluia. Amen. Vous avez tout le loisir de dire amen si vous êtes d'accord, à moins que vous ne soyez pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne dit pas amen. Mais si on est d'accord, ce que veut dire amen en fait. Amen veut dire je suis d'accord avec ce qui est en train d'être dit. Alors ne faites pas les timides parce qu'on se connaît maintenant. Donc merci Seigneur, c'est une parole de salut. Et dans cette parole de salut, donc qui a été prophétisée bien avant, on voit au travers de ce passage deux versets d'introduction dans l'évangile de Luc chapitre 1 versets 16 et 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Dieu ne laisse rien au hasard. Ces paroles ont été prophétisées, donc c'était en préambule de la naissance de Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes au courant que Jean-Baptiste est l'homme le plus grand que la terre ait pu porter? C'est Jésus qui l'a qualifié comme ça. C'est Jésus qui a dit, Jean-Baptiste, c'est l'homme le plus grand que la terre ait pu porter. Et donc, dans ces paroles prophétiques, des paroles de salut, parce qu'il est dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et là, c'était la mission, en fait. La mission, c'était de ramener. Et ce que le Seigneur continue de faire encore aujourd'hui, c'est de nous ramener à lui. C'est de nous attirer à lui. Pourquoi? Parce que nous avons une certaine tendance, une fâcheuse tendance à nous éloigner de Dieu. Quand on lit dans la Bible, on va le remarquer dans toutes les histoires, où Dieu, en fait, il poursuit l'homme. Alors, poursuivre dans le bon sens. Il poursuit l'homme pour lui donner l'amour, pour lui donner la paix, pour lui donner la joie, tout ce qui est nécessaire à la vie. Et l'homme refuse et il part donc loin de lui. Et dans ses paroles, et c'est ce que va se préoccuper de faire Jean-Baptiste lors de son ministère, qui va être le précurseur du Seigneur Jésus, il va prêcher un seul message. Vous connaissez le thème de son message ? La repentance. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Aujourd'hui, si on essaie de s'améliorer, chacun d'entre nous, en se disant, on va voir, peut-être, je vais arrêter de faire ceci, je vais arrêter de faire cela, et puis on va voir si le Seigneur me sera un jour favorable. En fait, on peut mettre tous les efforts qu'on veut. La parole de Dieu nous dit que finalement, il n'y a rien de bon à nous et nous avons besoin d'un sauveur. Et donc, comme on était bien incapable de se sauver, le Seigneur a pourvu. Et c'est dans ce sens-là que donc Jean-Baptiste va arriver avec ce message de repentance. Alléluia. Il est dit que ben, il aura la puissance d'Élie. Comparaison hein, avec le grand prophète Élie, hein, où le Seigneur s'est servi de lui. D'ailleurs, certains confondaient, hein, certains disaient que c'était le retour d'Élie, hein, parce qu'on sait qu'il a été enlevé. Puis et, certains disaient, ben, en fait, c'est Élie qui est arrivé. Donc, ça prouve que ces paroles, elles ont été confirmées. La prophétie s'est accomplie et sa mission, c'était donc ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Aujourd'hui, plus que jamais, on peut qualifier l'être humain de rebelle. Il y a une rébellion qui monte et dans certains pays, certains sont devenus des spécialistes, nous les Français. Je vais content, hein, quand il manque de l'eau, il pleut, on se dit, mince, pourquoi il pleut? Alors l'été, on se dit, ben, on aimerait bien un peu de soleil et puis quand il y a le soleil, il y a trop de soleil. Jamais content, quand ça s'arrête là, on pourra dire que ça peut aller. Mais voilà, on est connu par les autres peuples du monde entier pour les Français être des râleurs. Mais ça, c'est les autres qui le disent, c'est pas nous. Hein. Nous, on se qualifie pas comme ça, n'est-ce pas? Nous, on est heureux, on est fiers du Seigneur. Donc, alléluia. Alors, les rebelles à la sagesse des justes. Voilà ici, en fait, ce que le Seigneur poursuivait, c'est de ramener chacun d'entre nous donc, et à rentrer dans cette justification que seul Jésus est capable de donner. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à expérimenter et à vivre. Être justifié par Dieu, c'est-à-dire comment Dieu me voit et comment Dieu donc me regarde. Et en fait, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes justifiés et que à nous, le Seigneur ne voit pas de péché, il voit la justification de Jésus-Christ, lui, le juste, qui a donné sa vie pour des injustes. Et quand on le réalise, alors la louange, elle va être spontanée, hein, il y aura de la vigueur, de la vitalité, parce qu'on va se dire, mais Seigneur, quelle grâce tu m'as accordée, moi qui ne méritais rien du tout, pourtant tu m'as donné ces choses-là. Donc c'est une parole de salut afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. J'ai dit tout à l'heure que le Seigneur, il avait déjà tout planifié, donc pour disposer le cœur. C'était un préambule. Il y avait des conversions, des hommes et des femmes se faisaient baptiser, ils faisaient des kilomètres avec leur famille pour aller dans le désert. Il faut être quand même attiré par quelque chose de bon, hein, pour faire ces déplacements-là. Et ça a donc préparé le ministère puissant du Seigneur Jésus-Christ pendant plus de 3 ans. Il va faire des choses extraordinaires, alléluia, et ça c'est merveilleux. Dans la seconde partie du verset Luc 1, 67 à 71, donc on continue, il est dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Amen. Première parole prophétique, c'est une parole de salut. Alléluia. Amen. Ne jamais oublier que la première parole de Noël, c'est une parole de salut. Donc, cette parole doit naître en nous, donc pour que nous puissions vivre par cette parole de salut. Alléluia. Et Jésus-Christ, donc, il est venu donc naître, je l'ai dit tout à l'heure, hein, même dans l'introduction du passage de la Sainte Cène, un enfant nous a été donné. Le Seigneur est né sur cette terre. Le Fils de Dieu est né ici-bas. Ensuite, il a vécu comme nous. Il a vécu pour nous montrer le chemin. Et également, le Seigneur est mort pour nous. On s'est rappelé, hein, lors de quand on a pris le pain et le vin, hein, la symbolique de ce que cela représente, c'est le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. Il est mort pour nous. Si ça s'arrêtait là, ça serait bien dramatique. Mais également, il est ressuscité pour nous. Amen. Et ça, c'est le message du Seigneur. Alléluia. La mort n'a pu le retenir. Il est vivant, il est au milieu de nous, il vit dans nos cœurs. Et ce matin, il te parle pour annoncer ce message, que c'est un message de salut. Alors on ne doit surtout jamais arrêter, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, de proclamer le salut en Jésus et en Jésus seul. Alléluia. La deuxième parole, c'est une parole de grâce. On sait que la grâce, c'est une faveur non méritée. Il n'y a personne ici qui peut dire à un moment donné, mais moi, oui, de par ma lignée familiale ou je ne sais quoi d'autre, je mérite quelque chose de la part de Dieu. Personne, en fait. On est tous logés à la même enseigne. Toujours dans Luc, chapitre 1, cette fois-ci, au verset 26 et 28, il est dit, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, regardez le message, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Ça a dû l'ébranler. Hein. Déjà, comment ça s'est passé? Je lisais cette semaine un livre que j'avais reçu là il y a quelque temps. C'est en fait Noël avec les yeux de Joseph. C'est vraiment intéressant. Hein. C'est quelqu'un qui a imaginé comment Joseph et par conséquent Marie ont pu comment ils ont pu vivre cette expérience. Parce que nous on lit ces choses-là, on le sait. Mais quand un ange vient, avec des certitudes, avec un message puissant. Et eux, ça les a ébranlés. Ils ont dû se poser plein de questions. Et l'ange, il vient ici. Parole de grâce, faveur élevée. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Juste avant que je meure étouffé. Henriette, un verre d'eau, s'il te plaît. Voilà. J'étais en train de devenir tout rouge, vous l'aviez remarqué. Voilà. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et chacun d'entre nous, une grâce nous a été faite. Dans la théologie, quand on lit la parole de Dieu, quand on l'étudie, il y a plusieurs grâces. Il y a la grâce qui sauve, mais il y a la grâce commune. Aujourd'hui, si vous respirez, c'est un effet de la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce commune. Et le Seigneur, il dit qu'il fait briller le soleil sur chacun d'entre nous. Et ça, donc, c'est une grâce, la grâce commune. Et puis, il y a... Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est mon épouse. Et puis, il y a la grâce particulière. 30 secondes. Il y a de l'animation. Hein. Et la grâce particulière. Donc, nous, une grâce particulière nous a été accordée. Cette grâce... d'avoir été sauvés. Ce message que nous avons entendu, que nous avons laissé pénétrer au fond de notre cœur, qui a ébranlé donc même notre position. Nous étions des incrédules, donc on décidait de ne pas croire au Seigneur. Et puis, cette parole a fendu notre cœur et désormais, nous sommes au bénéfice de sa grâce et je dirais de toutes ses grâces, la grâce commune, la grâce particulière pour chacun d'entre nous. Il est possible de traverser Noël sans réaliser la grâce qui nous est accordée. Il est possible, aujourd'hui, hein, dans cette fête commerciale, hier quelqu'un me demandait, est-ce que c'est vrai que Jésus n'est pas né le 25 décembre? Ben oui, hein, c'est parce que finalement, d'après les éléments de la parole de Dieu, les bergers qui sortaient avec les troupeaux, c'était impossible que ce soit au mois de décembre, impossible. Alors, certains le situent début du printemps, c'est à ce niveau-là. Mais en fait, derrière ça, quand on pense à Noël, nativité, on pense qu'à un moment donné, alors dans ce sens-là, c'est bien de se rappeler qu'un jour, alors on l'a mis le 25, pourquoi? Solstice d'hiver, c'est à ce moment-là que le soleil est au plus bas sur la terre, et à partir du 21, 22, 23, 25, voilà, ça va aller en s'accroissant, le soleil, donc la lumière, et c'est de la renaissance. Et donc, ils l'ont placé à ce niveau-là, mais on comprend derrière l'idée qu'à un moment donné, on doit se poser, chacun d'entre nous, pour réaliser la grâce qui nous a été accordée à chacun d'entre nous. Alléluia, faveur imméritée. Et le terme exact pour grâce, c'est faveur hautement élevée. Il y a certains niveaux, hein. Hautement élevée. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est sa protection, il nous protège. La faveur de Dieu, c'est sa provision. La faveur de Dieu, c'est sa direction. On va le voir un peu plus loin. Et toutes ces choses, le Seigneur nous l'accorde. Alléluia. Ne nous lassons jamais de remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous donne. Amen. La troisième parole prophétique, c'est une parole de bénédiction. Parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Ces paroles vont être données donc à Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, Luc 1, toujours 39-41, dans ce même temps. Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Pour nous, ça semble banal, hein, parce qu'on lit, on connaît. Mais à cette époque-là, les personnes étaient saisies du Saint-Esprit parce qu'il n'y avait pas encore eu l'effusion du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, et ça a été réservé qu'à très peu de personnes dans la Bible, hein, avant l'effusion du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Alléluia, amen. Donc le message qui vient en suivant, c'est un message de bénédiction. Et quand on est au Seigneur, nous sommes donc bénis de la part de Dieu. Alléluia. Alors des fois, en tant que bon français, hein, donc je relis à ce que j'ai dit tout à l'heure, des fois il peut arriver que on se focalise sur ce qui nous manque plutôt que de regarder sur ce qu'on a. Et en général, c'est le piège. On va se focaliser sur celui qui a plus que nous, qui a davantage que nous, et on se dit mais en fait voilà, moi par rapport à cette personne, j'ai moins. Mais si on regarde derrière avec ceux qui ont moins, on est quand même béni, hein. On a un toit, on peut se chauffer. Voilà, ça c'est la bénédiction du Seigneur. Et tout ça, on le retrouve. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Déjà, dans tout l'Ancien Testament, quand Dieu veut sauver son peuple, ils sont dans le désert, comment le Seigneur a pourvu pour eux? Dans le désert, imaginez-vous. Dans un désert, le Seigneur organise un buffet à volonté. Mais c'est ça, hein. Buffet à volonté. Vous voulez de la viande? Vous allez en avoir. C'était ça, hein, les cailles, la manne, et tout ce que le Seigneur a donné. L'eau dans le désert, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important dans le désert que de l'eau? Le peuple manque d'eau. Puis le Seigneur, par des circonstances merveilleuses, encore une fois, et miraculeuses, il leur accorde l'eau, et là, ils ont pu boire. Oui, le Seigneur est un Dieu de bénédiction. Jésus est venu pour nous donner la vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10, vous le lirez à la maison. Jésus est venu pour nous donner une vie en abondance. Abondance de quoi? Abondance de joie. Abondance de joie, mais durable. Parce que c'est vrai que certaines personnes vivent de la joie sans qu'ils soient au Seigneur, vivent de la joie, mais certains moments. Et c'est de la joie éphémère qui ne dure pas. Mais quand on vient au Seigneur, il y a une joie réelle, profonde, qui est là et qui dure malgré les circonstances, malgré tout ce que l'on peut subir. Cette joie, elle est là, elle est durable. Le secret de la vie abondante et l'abondance que le Seigneur nous donne, c'est ce bonheur. Alléluia. Le chrétien, celui qui a donné sa vie au Seigneur, il est heureux. Bon, là, pas trop, mais ça va arriver. Une fois qu'on l'aura saisi. Eh oui, ce bonheur de savoir que le Seigneur nous a sauvés. Donc le secret de la vie abondante, c'est être heureux dans le sens d'épanouissement. Quand on rencontre le Seigneur, on n'a plus besoin d'autre chose. Le Seigneur est suffisant pour combler tous nos besoins. Alléluia. Amen. D'ailleurs, il va le dire, hein, je ne l'ai pas mis, juste je le cite, Actes chapitre 3, verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Alors, j'oserais pas dire, hein, voilà, dis à ton voisin, tu es béni et tu es béni, hein. Mais je vous laisse, voilà, libre chacun de le faire. Il dit, voilà, il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Mais on suit pas Dieu simplement que pour les bénédictions. On suit Dieu pour qui il est. Et pour qui il est, il nous donne des bénédictions. Et là, ça fait toute la différence. Hein. Du coup, notre foi, elle sera pas ballottée par les circonstances de la vie. Aujourd'hui, si je, ça dépend de quel pied je me lève, je dis ben ça va aller, Seigneur, je veux te louer. Et puis si je suis mal luné, ben à ce moment-là, on verra différemment. Alors oui, dans le sens d'épanouissement, nous sommes épanouis dans le Seigneur. Une quatrième parole, c'est une parole prophétique, c'est une parole de direction. Et là, il va donner la direction à Joseph. Vous vous rappelez quand Jésus naît? Et puis à un moment donné, le Seigneur, donc l'ange va venir pour dire, ben Joseph, en fait, il faut que tu partes, il y a un danger, il faut que tu ailles en Égypte. Et c'est ce passage qui nous le dit, Matthieu, cette fois-ci, verset 1, 19, 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, vous avez tous le contexte, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. » Le Seigneur, quand on donne notre vie au Seigneur, il va se préoccuper de nous guider. Je le rappelle, pour il y a quelques dimanches, quand on a partagé sur la volonté de Dieu. Le Seigneur nous guide. Il faut qu'on soit juste, attentif. Dieu nous guide et nous dirige. Pourquoi faire? Pour nous protéger. Quand nous sommes en danger, que nous prenons une décision, j'irai ici, je ferai cela, et qu'il y a un danger, le Seigneur va toujours nous protéger. Le Seigneur va nous donner un GPS spécial. Alors le GPS... Vous savez ce que ça veut dire? Alors ne le dites pas trop vite, parce que moi j'ai une définition. J'ai guidé, P, protégé, S, surnaturellement. Le GPS de Dieu. Guidé, protégé, et tout ça, surnaturellement, le Seigneur veut nous guider. Alléluia. Et s'il nous guide, ça sous-entend qu'on démarre d'un point A pour aller dans un point B, on sait. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit dans sa prière, le Seigneur est là-haut en train de nous préparer une place. Un jour, quelqu'un a dit, par rapport à ça, il dit, ben, le Seigneur, c'est vrai, je le lis dans la Bible, il est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une maison, une demeure là-haut. Ben, elle sera magnifique, parce que depuis le temps. Ben oui, le Seigneur, tout ce qu'il fait, c'est beau. Alléluia. Il y a toute une symbolique qui est là, qui est derrière. Alors, merci Seigneur de nous guider. Et peut-être que dans ces temps, nous devons nous souvenir que dans toutes les prises de décision que nous prenons, on a besoin d'être guidés par le Seigneur. Même celles qui nous semblent les plus normales, on va dire, de tous les jours. Apprenons à remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Pour certains, il n'y a aucun souci, vous le faites. Pour d'autres, c'est une décision à prendre. Alléluia. Amen. Encore une parole. C'est une parole de joie. Et cette fois-ci, elle était adressée au berger. Parole prophétique de joie. Luc chapitre 2, verset 8, on revient à Luc, chapitre 2, verset 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le sujet de quoi? D'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Amen. Je le disais tout à l'heure, hein, quand on est au Seigneur, on est heureux, on est épanoui dans ce sens-là. Et le Seigneur nous met donc sa joie, la joie du Saint-Esprit qui est un fruit de l'Esprit. Vous le savez, hein, c'est l'Esprit qui produit cela au fond de notre cœur. Alléluia. Est-ce que ça sous-entend que, voilà, même quand on est tout seul, voilà, on sourit, c'est pas ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, et malgré les temps, les circonstances, cette joie, elle demeure. Au travers de ce verset, nous voyons que ça a été prophétisé que Jésus devient la source de joie. C'est quand on manque de joie, c'est auprès de lui que nous devons aller, ce qui est la source de la joie même. Alléluia. On n'imagine pas Jésus, voilà, hein, faire la tête et râler sans cesse à longueur de journée. Sa joie, elle est là et elle demeure. Jésus va devenir également la raison de la joie. Regarde ailleurs, on aurait de quoi déprimer. Hein. Mais si on regarde à l'œuvre du Seigneur, alors cette joie, elle est là au fond de nos cœurs, la raison de notre joie. Jésus est la cause de la joie. J'aimerais dire qu'il y a des voleurs de joie, vous le savez. Il y a des voleurs de joie. Des fois, on peut se laisser voler la peur, la crainte. Et d'ailleurs, c'est avec ce message que le Seigneur vient. Il purifie d'une grande frayeur ces bergers, ces hommes aguerris. Quand ils vont voir tous ces phénomènes, on le serait à moins, hein, donc ils sont saisis de frayeur. Mais l'ange leur dit un message. Ne craignez point. Vous le savez maintenant, hein, depuis le temps qu'on le dit, 365 fois, il est dit dans la parole de Dieu de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Quelle belle symbolique, quelle belle image pour chacun d'entre nous. Une fois par jour, où on aurait tendance peut-être à avoir peur, le Seigneur vient avec le même message, n'aie pas peur. C'est moi, ou n'aie pas peur, je suis là. Alléluia, amen. La sixième parole prophétique, c'est une parole de rédemption. Les chants en parlaient tout à l'heure, la rédemption. Et ici, cette parole a été adressée à Anne, Luc 2, 36-38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière, étant survenue elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance, la rédemption de Jérusalem qui nous a été parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, 2025. La rédemption, c'est quoi? Des fois, on emploie des mots, alors on connaît la signification, ou juste, on survole et on comprend ce que veut dire les mots, certains mots. Mais la rédemption nous parle de rachat. C'est ça la rédemption. C'est le rachat, être racheté. Et quand on rachète quelque chose, ça va nous éclairer ce matin de savoir que quand on le rachète, ça sous-entend qu'il y a de la valeur à la chose qu'on veut racheter. Donc c'est le rachat au sens de valeur. Jésus nous a rachetés parce qu'en fait, à cause du péché, notre âme appartenait et notre vie appartenait à l'ennemi, à l'adversaire, au diable. Et le Seigneur vient payer, pas avec de la monnaie, avec de l'or ou de l'argent, ou avec les choses périssables, mais par son sacrifice à la croix du calvaire, il vient racheter nos âmes, et ça prouve la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et aux yeux du Seigneur. Ne laissez plus personne vous rabaisser. Parce que le Seigneur et Dieu lui-même ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. Au contraire, il est là pour se révéler dans nos vies. Quand on parle de rédemption, il y a deux définitions dans le sens original. Le premier, c'est Gaal, qui signifie libérer à la faveur d'un prix payé. Et le second, c'est pada avec un H qui signifie essentiellement délivrer ou secourir. Merci Seigneur parce qu'il est venu nous délivrer. Merci Seigneur parce qu'il est venu nous secourir Alléluia. Et ça, c'est la rédemption de Christ. Amen. Dernière parole prophétique. C'est une parole prophétique de paix. La paix du Seigneur. Luc 1, 79. On revient à Luc. On a commencé avec Luc. On termine avec Luc. Luc 1, 79. Donc, après tout ce qu'on a vu, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Ce qui sous-entend que si je marche dans la paix avec Dieu, si je marche dans la paix avec Jésus, alors je peux marcher dans la paix. Vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, je répète. Si je marche dans la paix avec Dieu, je peux marcher dans la paix de Dieu. La paix de Dieu. Et c'est cette paix qui nous est donnée. Il y a d'autres versets qui nous parlent de la paix. C'est une paix donc qui dépasse toute intelligence, qui peut même nous déstabiliser à un moment donné. Cette paix qui est là, il n'y a rien de plus précieux que la paix quand on est ballotté, quand on passe des moments difficiles. On l'a vécu, mais cette paix, quand même une richesse que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Je conclue. Voyez que tout ça a été prophétisé avant que le Seigneur vienne, avec ce message prophétique, avec toutes ces choses que le Seigneur voulait nous donner. Donc, nous voulons terminer l'année, c'est bientôt. Donc, on est dans le dernier mois de l'année scolaire. Non, civile, pardon. Terminer l'année avec ces paroles, les paroles de salut. Que dans les moments que nous allons partager en famille, nous soyons alertes pour déposer dans les cœurs ces paroles de salut. Déposer dans les cœurs ces paroles de grâce. Déposer dans les cœurs des paroles de bénédiction, de direction, de joie, de rédemption et de paix. Amen. Alléluia. Les enfants l'ont chanté tout à l'heure, le sens premier finalement, on pourrait synthétiser comme ça, ce partage, le sens premier de Noël, c'est une bonne nouvelle à découvrir et pour nous, à redécouvrir encore et toujours. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. À Dieu soit la gloire. On prie le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta parole. Cette parole, c'est la vérité, Seigneur. Cette parole vient percuter nos cœurs et Seigneur, quand on réalise que, Seigneur mon Dieu, dans le prophétique, Seigneur mon Dieu, tu as annoncé certaines choses. Tout ce que nous avons vu, Seigneur, ce matin, que nous puissions le pratiquer dans les semaines, dans les jours à venir, Seigneur, avec ce même message qui ne change pas, qui est tellement puissant pour bouleverser un cœur, changer une vie, alléluia, et tu veux le faire encore aujourd'hui. Seigneur, merci de nous encourager encore ce matin. Tu béniras, Seigneur, la semaine à venir, Seigneur, que tu puisses te servir de chacun d'entre nous pour que la gloire ne t'en revienne qu'à toi seul. Merci, notre Dieu, pour tous ces moments encore passés dans ta présence. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Amen.